prospectif.
J'ai jamais rien entendu d'aussi ébouriffant.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Et partout ailleurs sur principactif.net. Principe Actif, le mix des cultures.
Yeah. RFI, 7h à Paris, 5h en temps universel. Bonjour à toutes et tous. RFI matin, 3h d'information à l'heure de Pékin. On évoque toute la matinée cette rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping ce matin. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi de la culture en France, le Festival de Cannes. Et notre invitée dans un peu plus d'une heure, la ministre française de la Culture, Catherine Pégard, au micro d'Arnaud Pontus. Mais d'abord le journal. Bonjour Paul Longsens-Pinelli.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
À la une, près de 2 heures de discussion à Pékin entre présidents chinois et américains.
Des entretiens qui viennent de se terminer et durant lesquels la question de Taïwan a été abordée. Xi Jinping a prévenu Donald Trump du risque de conflit entre les deux géants si ce dossier était mal géré. En Israël, l'extrême droite se donne rendez-vous aujourd'hui pour la journée dite de Jérusalem, des célébrations régulièrement marquées par les violences envers les Palestiniens. Après le sommet Afrique-France de Nairobi, Emmanuel Macron a fait un crochet par l'Éthiopie. Hier, au siège de l'Union africaine, le président français a assuré que son pays renouvelait son soutien à une représentation africaine au Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis en football, le PSG, champion de France pour la 14e fois, est désormais tourné à 100% vers la finale de la Ligue des Champions.
Après les formules de politesse, une première mise en garde de Xi Jinping à Donald Trump.
Lors d'un premier entretien qui vient de s'achever, si la question de Taïwan est maltraitée, Chine et États-Unis se heurteront, voire entreront en conflit, a prévenu le président chinois d'après la télévision d'État.
Son homologue américain a fort à faire avec ce dossier, mais ce n'est pas le seul.
Oui, puisqu'il compte aborder aussi les thématiques du commerce, des terres rares ou encore de l'Iran. La Maison-Blanche veut que Pékin fasse pression sur Téhéran pour débloquer le détroit d'Ormuz. Et plus globalement, le président des États-Unis espère revenir de ce déplacement en Asie avec quelques bonnes nouvelles pour son économie. Une économie américaine grippée, 3,8% d'inflation au mois d'avril, au plus haut donc depuis 3 ans, comme l'a constaté Vincent Sorio dans ce supermarché de Washington.
C'est un magasin Lidl qui a ouvert en 2024 à Washington, moins cher que la concurrence. Ce sont les clients comme Fred Pollack qui le disent. Et c'est en parce que tout a augmenté.
Absolument tout. Aussi bien le prix des médicaments que la nourriture ou l'essence. Le principal objectif de Trump dans tout ça, c'était d'enrichir les sociétés pétrolières. Et elles s'en mettent plein les poches.
Ici, dans ce quartier démocrate, tout le monde est d'accord. Non seulement Donald Trump n'aurait pas dû déclencher la guerre, mais en plus, il se fiche de l'inflation qu'il a lui-même provoquée.
Les céréales, le lait, les œufs, les trucs de base. L'administration Trump, avec les droits de douane et la guerre en Iran, en est largement responsable.
Et lorsqu'on demande à Bart, cet acheteur pressé, s'il croit au discours de la Maison-Blanche, ça va bientôt revenir à la normale, il répond avec un grand sourire.
Ouais. Dans le métier aux États-Unis, on appelle ça du bullshit.
Vincent Sourieux, Washington RFI.
La crise au Moyen-Orient et son front libanais également au centre de pourparlers à Washington aujourd'hui. Les délégations libanaises et israéliennes sont en effet attendues dans la capitale fédérale américaine malgré l'opposition du Hezbollah chiite pour tenter donc cette rencontre de consolider la trêve qui est en place depuis près d'un mois. Trêve violée presque quotidiennement. Près de 400 personnes sont mortes dans des frappes israéliennes depuis le 17 avril selon le ministère libanais de la Santé, dont 22 personnes hier.
L'extrême droite israélienne en parade dans Jérusalem aujourd'hui.
Ces militants représenteront la majorité des dizaines de milliers de participants aux célébrations de la journée dite de Jérusalem. C'est une date qui marque la réunification, entre guillemets, de la ville sainte en 1967. En clair, l'occupation puis l'annexion de la partie palestinienne de la ville. Les Palestiniens, justement, et les militants des droits de l'homme israéliens, ils sont souvent pris à partie. Mais malgré ces débordements, la journée reste très importante, en tout cas aux yeux du maire adjoint de Jérusalem qui s'est entretenu avec Amira Suilem.
Yes, good morning. C'est un jour qu'il attend avec impatience. Harry King reçoit dans son bureau de la municipalité de Jérusalem, entouré de photos de prières au mur des lamentations.
C'est un jour historique parce que nous n'avons pas deux lieux saints au monde, nous n'en avons qu'un seul. Il y a 59 ans, nous sommes revenus là où notre premier et second temple ont été bâtis, et là où, selon moi, le troisième temple sera aussi construit.
Un projet messianique auquel Harry King souhaite voir de plus en plus d'Israéliens adhérer. Achat de drapeaux, témoignages d'anciens vétérans de la guerre de 67 ou encore concerts. Le budget des festivités a été revu à la hausse cette année.
Le budget sera d'environ 2 ou 3 millions de dollars, je crois, quelque chose comme ça. Vos auditeurs doivent comprendre qu'en Israël, les gens deviennent de plus en plus d'extrême droite, je dirais, surtout après le 7 octobre et la guerre qu'on a été obligé de mener. Et c'est pour cela que de plus en plus de personnes célèbrent ce jour-là.
Des festivités qui cette année s'étaleront sur une semaine et nouveautés sur l'ensemble du territoire, colonies incluses. Amira Suilem, Jérusalem, RFI.
Des immeubles résidentiels en flammes cette nuit à Kiev en Ukraine après une importante attaque de drones et de missiles russes. Une personne a été tuée et 16 autres blessés selon le maire de la capitale ukrainienne.
Et en Russie après Koursk en décembre 2024, deux autres régions frontalières de l'Ukraine changent de gouverneur.
Bryansk et Belgorod, deux autres territoires régulièrement exposés aux ripostes de l'armée ukrainienne qui changent donc d'administration. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Vladimir Poutine, le président russe, hier, Anissa El-Jabri.
On savait le gouverneur de Belgorod sur la sellette depuis plusieurs semaines. Il était d'ailleurs officiellement en vacances. Vyacheslav Gladkov devait affronter depuis 2023 les incursions puis les attaques de l'Ukraine. Il se murmurait à Moscou qu'il avait fait trop d'erreurs. La dernière relayait publiquement les protestations de certains habitants sur la suppression de Telegram, une décision prise au sommet qu'il était censé avant tout faire appliquer. Avant l'annonce de ce qui a été présenté comme deux démissions, les désormais ex-gouverneurs avaient aussi perdu leurs adjoints, accusés de corruption dans la construction des fortifications de défense. À la tête de ces régions désormais, deux personnalités qui incarnent loyauté au Kremlin et à son choix de lancer une offensive en Ukraine. Yegor Kovalchuk, qui va diriger la région de Bryansk, qui était depuis juillet 2024 à la tête de celle de Lugansk, annexée en 2022. Quant à Belgorod, elle va être dirigée par un ancien officier combattant en Syrie, mais aussi en Ukraine, notamment dans la bataille d'Avdivka. Alexandre Chouvaïev va être le deuxième vétéran à diriger une région de Russie après le gouverneur de Tambov, nommé en novembre 2024. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
La Slovaquie, de son côté, a brièvement fermé hier sa frontière avec l'Ukraine pour des raisons de sécurité, après d'importants bombardements russes sur l'oblast de Transcarpathie, région située à proximité de la frontière. En Hongrie, l'ambassadeur russe dans le pays est convoqué ce matin après cette même attaque. La Transcarpathie étant une région où vit une minorité hongroise.
Une étape en Éthiopie pour refermer la tournée d'Emmanuel Macron sur le continent africain.
Une tournée de 5 jours et après le temps fort du sommet Afrique-France de Nairobi, le président français s'est donc rendu à Addis Abeba. Il a été accueilli hier par le premier ministre Abiy Ahmed avant de se rendre au siège de l'Union africaine. À l'issue d'une réunion qualifiée d'inédite avec le président de la commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf, et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, Emmanuel Macron a plaidé pour que les pays africains puissent être mieux entendus à l'international. Marlène Panara.
Emmanuel Macron a plaidé pour l'application de la résolution 2719 de l'ONU. Adoptée fin 2023, elle oblige les États membres à financer les opérations de paix de l'UA.
Cette résolution, elle n'a pas encore trouvé d'application directe et concrète parce qu'elle est bloquée. Donc on a vraiment cette volonté, tous les trois, de faire avancer ce dossier et de pouvoir mettre en œuvre cette résolution qui est essentielle. C'est un outil large, fort, crédible, qui d'ailleurs montre que le multilatéralisme fonctionne lorsqu'on s'en donne les moyens.
Le président français a également renouvelé son soutien à une représentation africaine au Conseil de sécurité de l'ONU.
Nous nous battons pour que l'Afrique soit représentée parmi les membres permanents du Conseil de sécurité. J'ai dit au président, si deux membres étaient nommément désignés par l'Union africaine, par consensus de tous les pairs, je suis sûr qu'aucun des membres permanents ne sera capable de le bloquer. En tout cas, nous ferons tout le travail diplomatique à vos côtés. Mais le temps est venu.
L'Union africaine réclame depuis plusieurs années l'attribution d'au moins 2 sièges permanents au profit du continent. Marlène Panara, Addis Abeba, RFI.
En France, aucun des 22 patients identifiés comme cas contact d'une passagère du MV Ondius, décédée du hantavirus, ne présente de symptômes. Ça, c'est ce que déclare le gouvernement français. Tous ont entamé une quarantaine à l'hôpital d'une durée minimale de 14 jours, période qui pourrait s'étirer à 42 jours, soit la durée maximum de la période d'incubation estimée. Une patiente testée positive se trouve toujours dans un état grave à Paris.
Pour Nicolas Sarkozy, c'est un copier-coller de la peine requise en première instance.
7 ans de prison ferme, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. C'est ce que l'accusation a demandé hier en appel à l'encontre de l'ex-président français jugé dans l'affaire du financement présumé libyen de sa campagne de 2007. Les procureurs financiers demandent la condamnation de Nicolas Sarkozy pour tous les délits pour lesquels il comparaît. C'est un récit d'audience signé Baptiste Coulon avec Stéphane Desfossés.
Si la peine la plus lourde est demandée pour Nicolas Sarkozy, c'est parce que le parquet estime qu'il est bien l'instigateur des faits. L'ancien président a tiré les ficelles, distribué les rôles, tout en s'exposant le moins possible. Pour les procureurs, il est donc bien le principal et unique bénéficiaire du pacte de corruption conclu avec le régime Kadhafi. Nicolas Sarkozy maintient qu'il ne savait rien des visites secrètes en Libye en 2005 de Claude Guéant et Brice Hortefeux, et qu'il n'a pas agi pour lever le mandat d'arrêt du beau-frère de Kadhafi, condamné pour l'attentat du DC-10 d'UTA. Une défense mise à mal à l'audience par deux attestations écrites de Claude Guéant, ce qui fait dire à Vincent Brengart, avocat de partie civile, que la peine requise aurait pu être bien plus lourde.
Ces deux attestations fragilisent considérablement sa défense. Donc c'était une possibilité. Ça n'a pas été le cas du ministère public, mais je pense qu'il ne faut pas non plus relativiser l'importance des peines qui ont été réclamées, parce que ça reste des peines tout à fait substantielles.
Des réquisitions auxquelles la défense de Nicolas Sarkozy entend bien répondre. Christophe Ingrin, l'un de ses avocat.
Il n'y a pas d'argent dans son patrimoine, pas d'argent libyen. Nicolas Sarkozy est innocent. Son élection n'a pas été biaisée.
Christophe Ingrin promet d'en faire la démonstration dans 2 semaines au moment des plaidoiries de la défense.
Baptiste Coulon et Stéphane Desfossés, des peines de 10 mois de prison avec sursis et 6 mois de prison ferme ont été demandées à l'encontre des autres prévenus. La décision de la Cour d'appel de Paris est attendue fin novembre prochain.
En football, c'est le même banquet presque tous les ans pour un insatiable PSG.
Qui s'est adjugé hier un 14e titre de champion de France en dévorant 2-0 son dauphin, le RC Lens, qui ne peut plus rattraper mathématiquement Paris au classement à une journée de la fin de la Ligue 1. Anne Dufort-Cornier, les supporters parisiens qui avaient fait le déplacement ont chanté à en perdre la voix hier, sans perdre de vue l'objectif de décrocher dans 2 semaines un 2e titre européen consécutif.
C'est à toi que je parle, je te sais dans la foule, perdu mort dans tes larmes, pour ne pas qu'elles coulent. Entre lui et moi, il faudra choisir, entre toi et moi. J'ai envie de te dire que lui c'est personne, il cache bien son nom, moi son nom je te le donne. Il s'appelle Illusion, alors c'est pas mon histoire, mais vraiment la tienne. Une ombre dans le brouillard, je voudrais que tu reviennes. Tu verrais que chez nous, ça y est j'ai fait le ménage. Je parle avec le loup, il m'écoute davantage. J'ai semé du silence pour que tu te reposes. Je garde mes distances et t'attends avec des roses. Sur mes lèvres, viens lire, la promesse y est écrite. Je pardonnerai le pire, mais que le meilleur s'en suive. Ça c'est pas de l'amour, alors c'est de la pure folie. Demain il fera jour, mais quelle est longue cette nuit. Je t'envoie un baiser, donne-lui une chance. Je voulais te dire, j'ai changé, refaisons connaissance. Je voulais te dire autre chose, on n'est pas un couple ordinaire. Aime-moi si tu l'oses, à moins que tu préfères un miroir aux alouettes, toujours de ton côté. Tu fais oui avec la tête, mais la garde baissée. Quand il te pousse, on mensonge, ne pas être mêlé au chagrin qui me ronge, qu'il devrait assumer. Je voulais te dire que je t'aime malgré tout ce que je sais. Je voulais te dire que je t'aime, que le prix je l'ai payé. Je voulais te dire que je t'aime, que le prix je l'ai payé. Et que le prix je l'ai payé.
Nasdaq to Rent, I don't understand. Dow Jones, Nikkei, Kelly, set more lane.